Radio G 101.5 FM.
Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, des histoires qui font peur, de la philo, de l'histoire avec un grand H, des héros pas en slip, du football, de la bouffe et d'autres trucs. Attention, générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui vous donnera de bonnes idées de lecture, j'en suis persuadé. Nous sommes ensemble pour une heure et j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Pour commencer cette émission, on va parler de deux albums jeunesse. Le premier album est un album qui fait un petit peu peur. Il se nomme Mason Mooney, enquêteur paranormal certifié, et c'est de Sarah Miller aux éditions Rue de Sèvres. Je le dis tout de suite, je ne vais pas m'excuser à chaque fois que je vais mal prononcer un nom. C'est un petit peu à mon habitude, je devrais me renseigner un petit peu sur la façon dont on le prononce. Mason Mooney, qu'est-ce que c'est que cet album? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est persuadé d'être l'enquêteur du paranormal dans l'absolu. Il est... plutôt arrogant, hein, ne nous le cachons pas, et il se trimballe toujours avec un cœur palpitant sous le bras dans un bocal. Un cœur qui renferme un secret, mais ça vous aurez l'occasion de le découvrir beaucoup plus tard dans l'album. Mason Mooney vit dans la ville de Grimbrook. Dans cette ville, il y a un manoir, et un jour, il reçoit parmi... ses nombreux courriers de lecteurs, un courrier. Une jeune fille lui demande de l'aide pour venir délivrer sa sœur qui semble être victime d'une malédiction. Mason Mooney décide d'y aller, surtout quand il apprend que la mission a été proposée à la Société du Paranormal, un groupe de personnes qui passent à la télé, qui vendent des t-shirts, qui vendent des cassettes vidéo et surtout qui ont le don de l'horripiler au plus haut point. Mais est-ce qu'il y aurait une raison à cela? Vous aurez également l'occasion de le découvrir dans l'album. Pourquoi c'est sympa? Eh bien, Mason Mooney, c'est sympa parce que c'est une histoire un petit peu d'horreur. J'en parlais tout à l'heure. Mais c'est surtout une histoire qui va vraiment puiser ses ressources dans toutes les bases du paranormal. Si les enfants n'ont aucune connaissance en paranormal, eh bien, ils vont pouvoir découvrir un petit peu comment essayer de comprendre un petit peu ce qui est possiblement paranormal ou s'il y a une explication plausible à certains événements surnaturels. Mason Mooney a beaucoup de capacités, il est certainement très compétent, contrairement à la Société du Paranormal, mais je le répète, je vous laisserai le découvrir dans l'album. Les personnages sont plutôt attachants, même si au départ Mason Mooney en a plus envie de lui mettre des baffes que de suivre son aventure, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus horripilant que lui comme personnage et au final on le trouve plutôt attachant. Il a un côté assez... si on dépasse ce petit gratin, ce petit vernis d'arrogance qui nous exaspère quand même au plus haut point, on se rend compte qu'il est quand même bien attachant et que bah, il lui faut pas grand chose pour devenir quelqu'un d'agréable et de bonne compagnie, contrairement à ce qu'il voudrait laisser penser. Et bon, on comprend aussi pourquoi il a cette espèce d'arrogance, pourquoi ce personnage est on va dire un petit peu différent dans les émotions, dans sa gestion des émotions. Graphiquement, je vous avoue qu'au départ, j'étais pas très fan. C'est le personnage de Mason, par exemple, a les oreilles un peu décollées, un nez en trompette, des dents de devant. Ça m'aidait pas non plus à l'apprécier. Mais au final, tout marche plutôt bien. C'est un album qui prend son temps, qui va jouer avec son cadrage, qui va jouer avec le lecteur de la manière la plus efficace qui soit. Les poltergeists étant représentés dans cette espèce de couleur un peu verte, verte ectoplasme, qui est plutôt drôle, qui est plutôt agréable. Non, au final, ça passe très bien et ça sert. Excusez-moi, il y a une moto qui passe dans la rue au moment où j'enregistre. C'est, je suis désolé. Il y a cette espèce de trait qui va accentuer un petit peu les côtés horrifiques tout en gardant le côté enfantin et agréable des histoires pour enfants, et c'est plutôt cool. C'est un comics, hein, puisque du coup c'est adapté c'est une traduction d'un roman américain, d'un comics américain, et c'est assez bavard quand même. Il y a beaucoup de passages avec des blocs de texte, mais c'est des blocs de texte qui sont quand même super importants, puisque le narrateur s'adresse directement au lecteur, quitte à digresser au fil des pages et à rebondir sur des petits éléments. Alors le narrateur s'admoneste une fois de temps en temps pour arriver à se concentrer sur le récit. Des fois il part tellement en vrille que ça en devient très très rigolo. Donc on a cette espèce de petit pas un grand écart, mais cette espèce de petit parallèle qui se fait entre humour, légèreté et angoisse, horreur. Alors, pas vraiment de l'horreur, hein, soyons honnêtes, mais qui est plutôt agréable et qui fonctionne bien. Y a un petit teasing à la fin qui annonce éventuellement une série plus longue avec beaucoup d'humour, et je pense que ça vaudra le coup de se pencher là-dessus, parce que ça vaut vraiment le détour et ça vaut vraiment le temps d'être lu. Rassurez-vous, hein, c'est pas parce qu'il y a un cœur palpitant dans un bocal que ça va vraiment faire peur aux enfants. À partir de 7 ans, ça se lit tout à fait très bien. Je redonne les références. Il s'agit de Mason Mooney, enquêteur paranormal certifié. C'est de Sarah Miller et c'est aux éditions Rue de Sèvres. On continue du côté de la jeunesse avec un album qui se lit plutôt rapidement. Alors après, quand c'est orienté pour les enfants, en général, c'est plus... c'est souvent un petit peu plus léger et en termes de narration, de façon à ce que ce soit plus lisible pour eux. Là, il s'agit de Jacob, Mimi et les chiens parlants. C'est Delina Braslina et Sanita Muizniec. Je pense que ça doit se prononcer comme ça, je ne sais pas. Et c'est aux éditions de La Pastèque. L'histoire, c'est celle de Jacob, un jeune garçon qui vit en Lettonie. Et un jour, son papa va le déposer chez son oncle, parce que le papa, il doit aller travailler pendant quelques jours. Et Jacob va faire la connaissance de Mimi, sa cousine, qui est un petit peu une terreur. Et cette terreur lutte de territoire avec des chiens qui parlent. Oui, des chiens qui parlent, et ça ne choque personne, pas même Jacob, ce qui est plutôt original. Et il va se rendre compte qu'il y a... Jacob a l'impression d'avoir une espèce de super pouvoir, c'est-à-dire que dès qu'il dessine quelque chose, eh bien ça se produit. Et pour fâcher sa cousine, il va imaginer que la belle cabane qu'elle possède au milieu d'un des jardins, elle va être détruite et remplacée par un immeuble. Et c'est à peu près ce qui arrive. Des travaux commencent à être mis en chantier autour de cette cabane pour construire une gigantesque tour. Et c'est à ce moment-là que Mimi et les chiens se disent qu'il est peut-être temps de s'allier pour éviter que cette tour ne s'érige et gâche la vie de tout le monde. Graphiquement, on est sur quelque chose de très léger, très agréable. Je pense que c'est du numérique. Je suis pas très sûr de moi, mais on a cet aspect un petit peu crayon feutre avec les petits côtés qui débordent. Il n'y a pas d'ancrage, donc ça rend le truc vraiment très agréable, très très enfantin. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'un petit peu statique, mais comme on pourrait voir dans des je sais pas si vous vous rappelez, non j'allais dire une bêtise, j'avais parlé d'Anaconda, ça ressemble absolument pas à ça. Non, c'est très ludique, c'est très joli, les chiens sont tous différents, il y a plein de choses, c'est très rigolo, c'est franchement agréable. On a vraiment l'impression d'avoir une BD qui a été faite pour se mettre au niveau des enfants, dans une BD où un enfant qui s'applique correctement arriverait à la dessiner, et c'est plutôt cool parce que ça aide vraiment à s'immerger et à prendre le parti de ces enfants qui au départ sont un petit peu des cases bonbons, hein, hormis Jacob, mais c'est vraiment agréable, c'est vraiment une belle narration, c'est plutôt fun, c'est très coloré, encore une fois on a cet aspect plus crayon feutre qui a été utilisé avec je sais pas si vous voyez quand vous faites un feutre sur une feuille qui est encore un petit peu humide, ou une feuille qui absorbe bien, il y a une espèce de petit débord qui se fait sur les couleurs même si vous étiez très fin, et ça, on a cet aspect là, c'est vraiment agréable. L'histoire est plutôt simple, hein, globalement c'est les enfants qui vont tenter d'empêcher quelque chose avec des rebondissements qui sont, on va pas dire convenus, mais qui sont on va dire courants dans ce genre d'histoire, même si voilà, ils sont toujours tournés d'une manière un peu différente, mais là du coup c'est super agréable, c'est franchement sympa, et puis ça fait découvrir une autre culture. On a vraiment ce côté un peu je veux dire russisant, même si je pense que ce terme-là n'existe pas. Il y a ce contexte historique, enfin pas historique, culturel, qui détonne un petit peu. Si vous êtes un peu curieux, il y a des petites choses qui sont planquées à certains moments dans la BD et qui peuvent vous donner envie de découvrir, de chercher au moins ce que c'est. Si vous ne cherchez pas, ça n'aura absolument aucune incidence sur votre lecture, mais ça peut vous aider à un peu plus de compréhension. Et c'est vraiment, vraiment très agréable. Mention spéciale à la carte de la ville qui est entièrement dessinée comme si c'était les enfants qui les avaient dessinées. Et là, effectivement, on a l'impression d'avoir tout dessiné à la fois au crayon de couleur, et en crayon feutre, mais je pense que c'est un enfant qui sait mieux dessiner que moi, mais c'est toujours agréable, et c'est vraiment sympa de voir des choses qui font l'effort d'être intégrées directement pour que les enfants puissent en profiter vraiment à fond. Une belle BD à découvrir, encore une fois, là, bon, même avant 7 ans, ça peut être lu accompagné pour les petits, pour les plus petits, et puis bon, dans toute autonomie, je pense qu'au-delà de 7-8 ans, ça va commencer à être un peu moins à leur convenir. Je redonne les références, c'est Jacob Mimi et les chiens parlants, Delina Raslina et de Sanita Muzniec, c'est aux éditions La Pastèque. Avant de passer à la suite, je vous propose de faire une toute petite pause musicale avec un morceau de Dodi, une chanteuse qui a fait ses débuts sur YouTube, il me semble, qui a choisi de reprendre sa chanson Monster avec le groupe Pamplemousse que je vous avais déjà fait découvrir sur les ondes de Radio G. On se retrouve dans quelques instants.
Tell me again about how it hurts being awfully loud for an introvert. Get out of my room, smile wiped clean. Isn't it weird to be so mean? I'm guessing that I've grown hard. I guess I'm human no more. I can tell I've rotted in your brain. Oh, how easily passion twists. Think I'm a crazy bitch. I craft my words to fit your head, 'cause no one listens to the dead. So maybe I'll talk to you. The only way I know how to. apart. We blankly stare, we shout in our heads. Are you still in there? Well, this ends bad then. We knew it would, so we won't eat our words. Cause they don't taste good. I'm guessing that I've grown hard. I guess I'm human no more. I can tell I've rotted in your brain. Oh, how easily passion twists. You think I'm a crazy bitch. A thousand words are left unsaid. Cause no one listens to the day. So maybe I will talk to you. The only way I know how to. I've said my speech. To sharpen teeth. You break the rules and spice school through your skin. Top of your list, adoring every move. Then my rank is sinking. But we're both guilty of black or white thinking. Do my red eyes in the pale. All of your scars are looking more like scales. Two ugly creatures, two sinister preachers. Blind to the past like a couple of monsters. Just a couple of monsters.
Sur le 101.5 de Radio G, vous venez d'écouter Dodi avec son morceau Monster, repris en duo avec Pomplamoose. Faisons un petit tour du côté des mangas. On va commencer avec Sahara, le samouraï aux fleurs, de Yuzaku Shibata aux éditions Nobinobi. De quoi ça parle ? Imaginez un monde à la Mad Max, où il y a eu une espèce de grand conflit, et le sol, 95% des terres, est entièrement recouvert de sable, un grand et gigantesque désert. Et ces déserts sont parsemés de petits îlots, de villes, ayant tant bien que mal survécu. Imaginez que dans ce monde, il n'y a quasiment plus de verdure, de végétation, de plantes. Dans ce monde, traverser ces fabuleux déserts est absolument impensable pour une personne seule, puisque ces déserts sont parcourus par de gigantesques armures, des sortes de robots automates guerriers qui vont vous traquer et vous tuer de manière extrêmement violente si vous tentez de les traverser. Et puis, dans ce monde, il y a une jeune fille qui cherche à rejoindre une mythique vallée de l'Arbre-Monde. Cette jeune fille dispose de deux choses très précieuses, un tube contenant les cendres de son père et une toute petite fleur. Dans la ville où elle est, elle va rencontrer un samouraï du nom de Sahara. Ce samouraï a une épée qui est faite visiblement de plantes et qui a des effets plutôt particuliers, mais je vous laisserai les découvrir. Sahara va passer un pacte avec Yae, la jeune fille, et il va lui servir de garde du corps jusqu'à cet arbre-monde. Est-ce qu'ils y arriveront ? Ça, je vous laisserai le découvrir. Ce sera un petit peu le secret de ce parcours. L'ouvrage est très très joli, même si je trouve que le dessin fait un petit peu... Bon, non. Le dessin est très très joli, il y a beaucoup d'ancrage, c'est quand même globalement assez sombre, mais c'est pas vraiment gênant. Il y a pas mal de détails, des mentions particulières à l'intérieur des vêtements, par exemple de Sahara, qui sont recouverts de motifs de petites fleurs, comme on voit beaucoup en fait sur des motifs, ça fait un peu motif japonais, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très très joli, c'est très détaillé. On a une lecture en sens, un sens de lecture originale, qui est plutôt facile à lire, qui est plutôt agréable. C'est pas trop bavard, même si ça reste quand même assez touffu. Et c'est vraiment sympathique. C'est un one shot. Alors il y a quelques surprises un peu convenues, mais il y a des rebondissements. Il y a vraiment tout ce qui fait que on a envie de découvrir les origines, on va dire, de Sahara, et puis comprendre un petit peu ce que Yae a besoin de faire. Et c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment agréable. Moi, si je devais n'avoir qu'un seul regret sur cet album, c'est que ben, ce ne soit qu'un one shot, puisque ça aurait clairement mérité d'avoir plusieurs tomes. La série sur deux ou trois tomes, ça aurait été vraiment... elle aurait pu prendre son temps et s'étirer et puis peut-être mêler un peu plus le mystère, puisqu'on a vraiment une fin qui est un peu abrupte, qui a un déroulé beaucoup trop rapide à mon goût, hein. Encore une fois, c'est chacun verra ce qu'il souhaite, mais la conclusion est un petit peu trop rapide selon moi, et ça aurait deux tomes, ça aurait été vraiment, je pense, agréable et efficace. Au fur et à mesure de l'album, on découvre aussi des croquis de différentes choses qu'on voit, que ce soit les soldats automates, que ce soit certains vaisseaux, certains adversaires. Il y a des petits schémas qui parsèment pour rendre les choses encore un peu plus concrètes, et ça aide encore une fois à immerger le lecteur dans le récit, et ce qui est vraiment très très intéressant. Du coup, on en profite vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé, hein. Je ne le cache pas, même si au départ je me suis dit, bon, c'est la couverture, je sais, je vais passer pour un vieux macho en disant ça, mais ça faisait un peu trop girly en fait, et au final non, pas du tout, c'est vraiment hyper agréable. Et allez-y, si l'auteur avait fait un album complètement en couleur, je pense que ça aurait eu une toute autre tonalité. Là, le noir et blanc traditionnel du manga lui sied vraiment très bien, et aide à rendre un petit peu plus marquant les immensités des articles traversés par nos deux personnages. Je redonne les références, il s'agit de Sahara, le samouraï aux fleurs, de Yuzaku Shibata, et c'est aux éditions Nobi Nobi. C'est destiné à un public de 11 ans et plus. Bon, y a un peu de violence. Moi, j'aurais dit qu'à partir de 10 ans, ça marche quand même. Continuons au manga avec Mist Gears Blast d'Hajime Tanaka et de Yoshi Amano. Alors, j'ai pas fouillé plus longuement, mais ce serait à la fois l'adaptation d'un roman, mais également une adaptation en jeu vidéo. Et du coup, on a un tri-univers qui va se compléter entre les lectures, les différentes lectures et les jeux. De quoi ça parle ? Eh bien, on va pas être beaucoup dépaysé par rapport à Sahara. Imaginez un monde où une espèce de brume étrange a plus ou moins soudainement commencé à recouvrir le monde. Cette brume, altérant de façon permanente les gens, les tuant, les obligeant à se réfugier dans certains endroits pour échapper à la catastrophe, la plupart s'étant échappés sous terre ou dans des grottes souterraines. Et cette brume, en fait, va altérer à la fois la végétation, mais aussi les animaux, les rendant beaucoup plus violents, beaucoup plus grands que ce qu'ils étaient, les transformant en créatures absolument prédatrices pour l'homme. Dans ce monde, il y a une jeune fille qui, dans une ville souterraine, va décider de franchir l'ultime tabou de sa ville et de retourner à la surface chercher son père qui lui avait décidé de trouver un moyen de soigner les gens affectés par cette brume. Parce que oui, comme c'est une brume, il suffit qu'il y ait des toutes petites aspérités ou des petits interstices et cette brume va commencer à contaminer de manière beaucoup plus insidieuse certains lieux et certaines personnes, et la maman de cette jeune fille va commencer à tomber malade, et le jour où la maladie l'emporte, la petite jeune fille décide de rejoindre la fameuse surface pour trouver un remède et sauver toute sa ville. Bon, bien entendu, très rapidement elle se fait contaminer par la brume, mais elle finit par tomber sur des gens qui semblent utiliser des armes très particulières. Ces armes ont pour capacité d'annihiler les effets de la brume pour leur porteur et dans le maigre secteur où elle se trouve. Nagi, la jeune fille, va alors se voir remettre les Lotus, une de ses armes, les Mist Gears, qui semblait défectueuse, mais dont elle va s'accommoder avec une très très forte facilité. Ces Mist Gears, elle va pouvoir les utiliser à la fois comme des points, mais également en accumulant de l'énergie qu'elle va pouvoir retransmettre et s'en servir pour pulvériser des adversaires. Visuellement, c'est hyper agréable, c'est très original, je trouve, au niveau des graphismes. Nagi avec ses gants m'a fait penser un petit peu au niveau design, cette fillette avec ses gants, à un comics dont j'ai perdu le nom, mais très 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 bon. Bon, enfin bref, c'était pas le sujet. Et on a vraiment des designs qui sont agréables, qui rappellent toujours un petit quelque chose, mais qui ont vraiment un côté assez fun. On a ce monde complètement toxique dans lesquels les personnages vont se déplacer et tomber nez à nez avec des créatures de plus en plus violentes et immenses, et d'autres escouades, puisque Nagi va intégrer une escouade capable de chercher les points d'origine de cette brume, qui vont avoir pour mission de chercher les points d'origine de cette brume et d'utiliser des Mist Gears pour la canaliser un petit peu et essayer de sauver un petit peu le monde. C'est vraiment agréable, c'est vraiment un manga qui est plutôt sympa et on passe un bon moment. Donc n'hésitez pas, c'est très dynamique, il y a pas mal d'action, mais ça reste quand même hyper lisible. Si vous êtes fan de manga un peu de baston, il y a quelques passages un petit peu gore, mais c'est pas rédhibitoire, enfin gore. Il y a du sang, voilà. Il y a un peu de violence, il y a un peu de sang, mais c'est pas rédhibitoire, soyons honnêtes. N'hésitez pas, Mist Gear Blast, une série en deux tomes, d'Hajime Tanaka et Yoichi Amano, aux éditions Delcourt Tonkam, et c'est plutôt cool. Je voulais commencer une nouvelle chronique et parler un peu plus d'animé, et je me suis penché sur différentes plateformes. Bon, il y a Netflix qui a un catalogue plutôt intéressant, sur lequel on peut découvrir Sky High Survival, une série chez Kana de mémoire, qui vient de sortir son dernier tome et dont la saison, l'adaptation animée vient juste de commencer. Ça peut être super cool, mais je me suis dit qu'il y avait certainement des choses qui étaient dédiées. Je me suis penché sur Crunchyroll. Si vous ne connaissez pas Crunchyroll, c'est assez simple. En fait, il faut imaginer un grand catalogue avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mangas. Je ne sais pas exactement combien il y a de titres dedans. Vous payez un petit abonnement mensuel et puis vous pouvez regarder vos animés tranquille en streaming depuis votre canapé, et ça marche très très bien. Il y a un système pour pouvoir stocker vos vidéos préférées et pouvoir les lancer par la suite. Donc il y a plusieurs niveaux d'abonnement que je vous laisserai découvrir. Pour moins de 5 balles, à savoir moins cher qu'un manga papier, vous avez accès en illimité au catalogue. Si vous suivez des animés et que vous dites que vous pouvez pas vraiment attendre 3 ou 4 mois après la sortie japonaise, vous sachez que Crunchyroll propose le simulcast. C'est-à-dire qu'une heure après la sortie japonaise du manga, vous avez une version sous-titrée disponible dans votre langue directement sur Crunchyroll. Je dis dans votre langue, en français, et c'est plutôt agréable parce que moi qui aime bien me faire mon petit épisode de One Piece, toutes les semaines je peux me faire mon épisode de One Piece de manière complètement légale et sans forcément attendre une traduction officielle, puisque il est disponible une heure après. Alors c'est vraiment, je trouve, absolument génial. Il y a beaucoup de mangas dans le catalogue. Il y a des choses dont on a parlé en version papier dans la case de Seb. On peut parler par exemple de Dr. Stone, on avait parlé de So I'm a Spider, So What. Il y a Ascendance of a Bookworm, il y a Moi quand je me réincarne en Slime. Vous savez, c'est des mangas dont on a parlé dans l'émission, dont on n'a pas parlé de la version animée, mais je me dis que profitant un petit peu de Crunchyroll, ce sera l'occasion peut-être de parler d'animés dont on n'a pas parlé de la version papier l'émission, ce qui pourrait être hyper agréable, ce qui permettrait aussi de vous faire des conseils vidéo sur du manga, ce qui peut être à mon avis hyper sympa. Je vous conseille Crunchyroll parce que moi j'ai bien aimé. Après je pense qu'il y a d'autres plateformes, mais ce sera à vous de faire votre choix en fonction des tarifs, en fonction du catalogue. C'est un petit peu comme si vous voulez regarder des séries, que vous devez choisir entre Amazon Plus, Netflix, je sais même plus ce qu'il y a, il y en a trop. Je vous conseille Crunchyroll, allez-y, c'est vraiment très bien. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec un hommage à un groupe qui vient de se séparer, que moi j'ai découvert quand j'étais encore au collège, avec les Daft Punk. Et là, je vous ai mis un petit Lose Yourself and Dance. C'est pas un vieux, mais ça plaît bien. On se retrouve juste après. Stopping. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous venez d'écouter Daft Punk, Lose Yourself and Dance. C'est vraiment très très bon et moi j'adore. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez trépigné et bougé un petit peu des fesses et des pieds dans votre salon. On va continuer ces péripéties, non pas ces péripéties, nos pérégrinations au pays du 9e art avec un petit peu de comics. Là, je vais vous parler d'un ouvrage à la fois tendre et touchant. Il s'agit de Eat and Love Yourself de Sweeney Boo, publié aux éditions Ankama. Si comme moi, vous vous êtes souvent dit qu'un carré de chocolat pouvait résoudre vos problèmes et vous aider à voir la vie plus rose, mais qu'une fois la tablette ou sa petite sœur engloutie directement dans votre système digestif, en stockant les calories dans les bourrelets disgracieux, c'est que, comme moi, vous n'avez pas compris l'intérêt de ce simple carré de chocolat. C'est ce que va découvrir Mindy, une jeune Québécoise de 27 ans, bien en chair, mais hélas très mal dans sa peau. Un mal-être si imposant qu'il lui empêche de voir les petits bonheurs qui frappent à sa porte. En effet, complètement centrée sur son aspect physique qui la rebute, la jeune femme ne voit pas que tout le monde n'est pas de cet avis et que la gente masculine n'est pas indifférente à sa beauté et son caractère. Mais voilà, être bien dans sa tête passe souvent par être bien dans son corps. Mela sano in corpore sano, je crois, c'est ça en latin, ou alors tant pis pour les latinistes. Et quand on souffre de dysmorphophobie et de TCA, eh bien, il est souvent bien difficile de profiter des petits bonheurs simples que la vie nous propose. Alors vous vous demandez certainement, dysmorphophobie et TCA, qu'est-ce que c'est ? Bon, les TCA, ce sont les troubles compulsifs alimentaires. C'est quelque chose d'assez vaste qui va regrouper en fait tous les troubles liés à l'alimentation qui ont souvent une origine soit psychologique, soit une origine stress. Et la dysmorphophobie, c'est cette peur de la difformité physique. Quelqu'un qui se trouve trop gros, quelqu'un qui se trouve trop maigre, que ce soit vraiment ou pas le cas, c'est de la dysmorphophobie avec tous les troubles que ça peut apporter. Et notre jeune Mindy, eh ben, ça lui pourrit un peu la vie, parce qu'effectivement, elle est, comme je le disais tout à l'heure, bien en chair, et elle a tendance à vouloir maigrir. Et cette maladie, cette façon qu'elle a de se voir elle-même, fait que parfois elle mange beaucoup, beaucoup, et à s'en rendre malade. Mais voilà, un soir, alors qu'elle raccompagne une de ses amies, beaucoup plus fringante et beaucoup plus extravertie qu'elle, mais aussi beaucoup plus alcoolisée, elle va la coucher sur son canapé chez elle, et elle va sortir acheter quelques petits trucs dans une supérette, et elle va tomber sur une boîte de chocolat. Non, pas une boîte, une seule tablette. Et cette tablette de chocolat, qui porte simplement les mots « Eat and love yourself », va lui changer un peu la vie. Je ne pense pas que la tablette soit magique en elle-même. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation en mangeant quelque chose que cela vous ramène à votre enfance. Un petit peu comme Proust et sa Madeleine. Eh bien, Mindy, à chaque fois qu'elle va manger un carré de cette tablette de chocolat, elle va vivre une espèce d'expérience extracorporelle. Elle va se retrouver dans son propre passé, à regarder son moi enfant, et elle va, au fur et à mesure, prendre conscience des choses qui ont pu la mener à son état physique actuel. Son papa, pas forcément délicat, qui lui reproche de beaucoup manger, les diverses agressions verbales et physiques que peut avoir une personne un petit peu avec un petit embonpoint quand elle est à l'école. Et toutes ces petites choses vont l'aider à prendre conscience de qui elle est, de ce qu'elle est, de comment elle en est venue à être cet individu qu'elle est, et elle va également pouvoir prendre conscience des choses à côté desquelles elle passe. C'est vraiment un ouvrage qui est hyper tendre, qui pointe du doigt des difficultés que peuvent avoir des gens en surpoids, ou même des gens, parce que Mindy est en surpoids, mais ça parle aussi des gens qui, eux, ont d'autres troubles alimentaires et qui ont vraiment cette autre dysmorphophobie. Ça peut toucher n'importe qui. Il y a des gens qui ne supportent pas leurs pieds et qui vont sans cesse les tripoter, sans cesse se torturer. Et c'est vraiment ces troubles-là que pointe cet album, en particulier les troubles alimentaires. Et c'est vraiment agréable, c'est fait de manière assez délicate, c'est fait de manière assez, assez intelligente pour ne pas faire culpabiliser complètement la société derrière, même si on se rend bien compte que l'environnement familial ne l'a pas aidé à se sortir de la situation dans laquelle elle était en train de s'empêtrer. Mais il n'y a pas que ça, elle a sa propre part de responsabilité. Mais l'aider à prendre conscience de ce qu'elle est et de comment elle y est arrivée, et surtout de ce qui se passe autour d'elle et qui ne dépend absolument pas de ça, et ça l'aide à aller mieux. La fin, je vous révèle pas la fin, hein, mais je trouvais que la fin était un petit peu brève. C'est une porte ouverte à beaucoup de choses. J'aurais aimé que ça continue un petit peu, mais ça laisse beaucoup de part à l'imagination sur ce que peut devenir la vie de Mindy par la suite. Et c'est vraiment, c'est pas très très grave hein, qu'on nous détaille pas ça, mais moi j'aime bien qu'on me pousse un petit peu plus loin et qu'on me fasse découvrir un peu plus de choses. Et c'est vraiment un album très agréable à lire, qui est vraiment intéressant, qu'il faut mettre entre les mains hein, des jeunes filles qui veulent absolument ressembler au mannequin qu'il y a à la télé. Ça sert à rien et ça peut aider à prendre beaucoup de recul sur notre vie, sur ce que l'on est et notre rapport au corps. Et c'est vraiment très agréable. Ouais, allez-y, c'est vraiment très bien. Voilà. C'était Eat and Love Yourself de Sweeney Boo. C'est aux éditions Ankama. Je vous propose de refaire une légère pause musicale. On va continuer avec les Daft Punk. On va continuer avec Pomplemousse. C'est Pomplemousse qui reprend Daft Punk avec Harder, Better, Faster.
Alors, c'est impressionnant. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Non, je suis complètement sérieuse. Vous avez 1, 2. Work it, make it, do it, makes us. Harder, better, faster, stronger. More than hour, never. Ever, after, work is over. Work it, make it, do it, makes us. Harder, better, faster, stronger. Than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour, work is never over. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. More than ever, hour after hour.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était une reprise des Daft Punk par Pomplemousse. C'était Harder, Better, Faster, Stronger, je crois. Je sais même plus. On entame la dernière partie de cette émission avec encore une excursion en terre inconnue avec une adaptation. Alors c'est les terres inconnues qui font une excursion en domaine BD, puisque là on va parler d'une nouvelle adaptation littéraire. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, je vais vous présenter deux albums adaptés du même roman. Ce roman, c'est 1984 de George Orwell. Alors non, 1984, ce n'est pas seulement l'année de naissance de mon petit frère, mais l'une des œuvres dystopiques ayant sans doute le plus marqué la culture pop. Une œuvre majeure dont les échos thématiques résonnent encore aujourd'hui d'une très forte pertinence. Pour vous présenter très rapidement l'histoire, c'est celle de Winston, un agent administratif dans un monde totalitaire. Citoyen d'une nation très contrôlée, il travaille à réécrire l'histoire. En effet, dans cet état totalitaire, tout est contrôlé par Big Brother, une sorte de figure paternaliste, censément bienveillante mais également intransigeante. À travers Big Brother, l'État impose une rigueur qui ne laisse aucune place à l'individualité et à l'intimité, ni aucune place à la réflexion. Chaque individu est constamment sous la surveillance d'un écran qui non seulement diffuse les actualités de l'État, mais surveille également ce qui se trouve en face. Vous vous doutez bien que ces écrans, on ne peut pas les éteindre. Le pire crime dans ce monde n'est pas dans les actes, mais dans la pensée. Et pour faciliter la population à rester dans le droit chemin, l'État réécrit l'histoire au fil des conflits. Pour vous aider à contextualiser, imaginez qu'on ait réécrit l'histoire pour que la France n'ait jamais été en guerre avec l'Allemagne. Bah oui, on est en paix actuellement avec l'Allemagne, donc on n'a jamais été en guerre. Et c'est un fait. Et toutes les références, toutes les traces pouvant faire état de cette guerre ont été gommées des livres d'histoire. Vous imaginez, vous voyez le topo ? Et puis pour faciliter la population à rester dans le droit chemin, l'État réécrit le dictionnaire en diminuant le langage. Et comme disait un philosophe, impossible de penser ce que l'on ne peut pas exprimer. Bref, dans cet univers si joyeux, notre brave Winston, bien conscient que ce monde ne tourne pas rond, va rencontrer, puis tomber amoureux de Julia. Julia, une femme plus jeune que lui, mais dont les idées à l'encontre du gouvernement sont les mêmes que Winston. Mais comment vivre un amour en liberté quand le simple fait d'exprimer des sentiments, penser pouvoir avoir des sentiments peut vous coûter la vie. Et bien c'est le sujet du roman, et c'est vraiment... faut le lire, vraiment. Si vous avez l'occasion, lisez-le. C'est fabuleux ce roman. Je le relis presque une fois par an et je le découvre toujours à chaque fois. Bref, les deux adaptations dont je vais parler sont différentes et il ne sera nullement question d'en faire un comparatif, simplement de présenter deux visions, deux adaptations de ce roman majeur. La première, c'est celle proposée par les éditions Soleil sous le crayon de Jean-Christophe Derien et le dessin de Rémi Torregrossa. Cette version propose un dessin en noir et blanc avec un trait léger et précis. L'ambiance y est probablement plus proche de celle pensée par Orwell à son époque. Un futur tel qu'il était pensé à l'époque d'Orwell. Une cité de Londres, crasseuse mais moderne, où les individus sont tous en combinaison d'ouvriers, montrant que chacun n'est qu'un rouage de cette industrie qu'est le parti, qu'est l'État. Les rares incursions de la couleur sont présentées en fond ou sur des objets pour souligner des moments d'intense émotion. Colère, peur ou simplement lorsque la page est entièrement colorée, des instants de normalité qui, au milieu de ce noir et blanc, font figure d'étrangeté. Voyez un petit peu, ce qui est normal pour nous devient étrange dans ce monde complètement rationalisé et contrôlé. Sans avoir fait un comparatif, je pense que le dessinateur a fortement été inspiré par le film de 1984 justement, sorti en 1984 et réalisé par Michel Radford. En effet, le personnage de Julia, l'héroïne, a une forte ressemblance avec l'actrice Susanna Hamilton qui jouait le rôle de Julia justement dans le film de 1984. Mais bon, c'est peut-être moi qui me fais seulement une idée, ou alors je sais pas. Le personnage de Big Brother est seulement présent sur des affiches, et je trouve qu'il a un regard plus inquisiteur, plus angoissant. Il a l'air en colère, comme l'idée que le lecteur s'en est fait au long du roman, puissant, implacable. Donc on ressort avec cette tension qui est assez particulière. Le second ouvrage, c'est celui proposé par les éditions Sarbacane, qui a été confié à Xavier Coste. L'ouvrage ici ne propose pas une adaptation, mais plus une modernisation du récit. Alors, ça reste une forme d'adaptation, mais on est plus vraiment sur cet esprit. On reprend le récit tel quel et puis on le retravaille de façon à avoir un truc un petit peu différent. Le parti pris graphique ici est résolument plus moderne et futuriste que ce qu'on pouvait s'imaginer. Les architectures sont très moderne et futuriste également, au regard même de notre époque. L'aspect bureaucratique ici est renforcé, puisque tous les personnages sont habillés d'un costume cravate ou d'un tailleur, un peu à l'image de l'agent Smith, simple ligne d'un règlement millimétré dans Matrix. Comme le premier ouvrage, le choix s'est porté sur de la bichromie, mais pas en noir et blanc, c'est plutôt du noir et couleur. Rouge, jaune, bleu. Elle ne représente pas ici de vraies émotions, mais elle ne représente pas là des émotions de personnages, mais plutôt des émotions de groupe ou des ambiances générales sur les sentiments quand même intrinsèques du héros. Le traitement octroyé à Big Brother est également, alors selon moi, plus bienveillant, parce que j'ai discuté avec des personnes qui le trouvent plus flippant dans cet album-là que dans le précédent. Alors que moi, je le trouve moins flippant dans cet album-là. Il est plus impassible. Il est très beaucoup plus posé, instigateur. Ça reste le même personnage qu'on nous présente. Et les deux descriptions, les deux dans chacun des albums correspondent à la description d'Orwell. Mais dans cet album-là, je lui trouve un aspect plus doux et amical, presque affectueux. Non, je m'avance peut-être un petit peu beaucoup sur le côté affectueux. Mais c'est vraiment sympa. Donc ici, on a vraiment une autre adaptation, un autre moment. C'est la même histoire. Il y a quelques détails qui vont varier d'un album à l'autre. Mais deux versions vraiment d'une même histoire que je vous invite à découvrir. Je vous invite, c'est méchant peut-être de lire, mais lisez le roman, lisez chacun des deux albums, faites-vous votre avis, mais tout est au moins aussi bon que ce soit mais vaut mieux lire le roman. Vous aurez la version brute telle qu'elle a été pensée par Orwell, et vous verrez que c'est quelque chose qui est terriblement toujours d'actualité. Je redonne les références. Nous avions donc le premier album qui est 1984 aux éditions Soleil, sous le crayon de Jean-Christophe Derien et le dessin de Rémi Torregrossa. Et puis le deuxième aux éditions Sarbacane, toujours 1984, est confié à la main de Xavier Coste. That's all, folks. Vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur le www.radio-g.fr si vous ne l'écoutiez pas déjà, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça vous a donné de bonnes idées de lecture. On se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours, et en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.
Radio G 101.5 FM.
Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est... Eh ben... c'est...